Et c'est Mathieu Laurent pour le journal. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les dernières informations en provenance de l'île de Sulawesi, près de 1000 morts recensés depuis vendredi et les ravages d'un violent séisme suivi d'un tsunami. Nous donnerons les enjeux des élections législatives au Kurdistan irakien à la veille de la désignation du président de l'Irak, poste dévolu à un élu kurde. Laura Dulieu évoquera cette demande d'enquête parlementaire sur les crimes pédophiles attribués à des hommes d'église, enquête formulée par des religieux, des avocats et des victimes. Et puis Jean-Christophe Augier rendra hommage au génial coup de crayon de René Pétillon, décédé à l'âge de 72 ans. Sur l'île indonésienne des Célèbes, la nourriture manque, les pillages se multiplient et la panique gouverne. Les hôpitaux qui n'ont pas été détruits peinent à faire face à l'urgence. La plupart des 832 morts recensés ont été découverts dans la ville de Palu et les autorités envisagent d'organiser des enterrements de masse pour écarter tout risque sanitaire. On fait le point avec vous, Eric Biekala.
Selon la sécurité civile indonésienne, un seul des quatre districts de l'île de Sulawesi touché par le tremblement de terre et le tsunami de vendredi a été pour le moment contacté, le plus peuplé, celui de Palu. Les autres, notamment le district de Donggala, de part et d'autre de la longue baie de Palu, sont encore coupés du monde. C'est sur ce district de Donggala que se trouve l'épicentre du séisme qui a frappé l'île. 300 000 personnes sont censées y résider, la plupart du temps dans un habitat très simple, des maisons souvent en bois sans étage avec une toiture en tôle ondulée, des habitations qui n'ont probablement pas survécu au séisme, mais qui n'ont pas forcément fait de victimes en s'affaissant. En revanche, dans la ville de Palu, ce sont des bâtiments en dur et à plusieurs étages qui se sont écroulés. C'est là, dans les ruines de ces bâtiments de Palu, qu'on a retrouvé la grande majorité des 832 corps pour le moment récupérés. Mais il y a encore sans doute des dizaines, voire des centaines d'autres victimes, celles qui se trouvaient sur les côtes, de part et d'autre, de la baie de Palu, pêcheurs ou amateurs de plage, et qui ont été emportées par les lames de fond du tsunami.
La liberté est un sentiment indescriptible. C'est Salah Amouri qui parle. L'avocat franco-palestinien vient de passer plus d'un an en détention administrative dans les geôles israéliennes. Aucune accusation formulée, comme l'autorise une procédure basée sur une mesure d'urgence introduite en 1945 par les autorités britanniques. Salah Amouri a déjà été incarcéré à plusieurs reprises. 6 ans de prison entre 2005 et 2011, après avoir été reconnu coupable par un tribunal israélien d'avoir projeté d'assassiner le rabbin et fondateur du parti ultra-orthodoxe Chass, Ovadia Yosef. Un démenti et une confirmation dans le nord-ouest syrien. Selon le porte-parole du Front National de Libération, une coalition de groupes rebelles dans la province d'Idlib, aucune faction appartenant à cette structure n'a retiré ses armes lourdes de sa zone d'influence. L'Observatoire syrien des droits de l'homme maintient les informations qu'il a divulguées ce matin. Aurélien Colli nous appelle de Beyrouth.
Il y a la guerre sur le terrain, il y a aussi la guerre de la communication. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé à Londres, persiste et signe. Il y a bien eu des retraits d'armes lourdes de la future zone tampon russo-turque, selon son directeur, qui cite les localités d'où se seraient retirées des unités du groupe rebelle Faylak al-Sham. Sauf que le porte-parole de ce groupe dément formellement. Aucun mouvement d'armes lourdes, aucun redéploiement de combattants, affirme-t-il. Idem pour le porte-parole de la coalition à laquelle il appartient, le Front National de Libération, coalition formée en août sous l'impulsion de la Turquie et considérée comme modérée. Les deux entités réitèrent en revanche leur adhésion à l'accord russo-turc qui prévoit bien leur retrait de la future zone tampon, mais ils n'auraient pas commencé. Difficile donc de savoir ce qu'il en est précisément. Est-ce que l'annonce d'un retrait par l'Observatoire syrien des droits de l'homme a été trop précoce pour un Front national de libération qui s'est dit prudent et attentif à toute trahison des Russes, des Iraniens ou du régime de Damas qui répète lui que malgré l'accord russo-turc, il reprendra Idlib? L'Observatoire syrien des droits de l'homme est-il vraiment fiable? Lui qui se présente comme indépendant et disposant d'un réseau d'observateurs dans toute la Syrie, si les médias s'appuient beaucoup sur lui parce qu'il communique et parce que les journalistes ne peuvent plus travailler librement et sans risque en Syrie, côté régime ou côté rebelle, certains experts et chercheurs incitent à la prudence en soulignant des chiffres ou des faits erronés ou invérifiables dans le passé.
Un an après avoir massivement voté pour la sécession, les habitants du Kurdistan irakien se sont timidement rendus aux urnes aujourd'hui afin de renouveler les 111 sièges du Parlement local, 673 candidats, 29 formations politiques pour une région autonome amputée de quelques-uns de ses précieux champs pétrolifères. Pour évoquer ces législatives au Kurdistan irakien, nous sommes en ligne comme convenu avec Hasni Abidi. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Hasni Abidi, la participation est très faible. Comment l'expliquer ?
La situation est très difficile pour les Kurdes sur le plan politique et sur le plan économique. Un an après les ratés de ce référendum, il y a un divorce très 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 significatif entre la population kurde et bien sûr les autorités, aussi les deux grands partis politiques, et ce qui explique un petit peu ce climat de dépression post-référendum.
Alors à Sinan Bidi, 29 partis, je l'ai dit, deux principes. Pâle formation, comme vous venez de le souligner, le PDK de Massoud Barzani et l'UPK de Feu Djalal Talabani. L'UPK en difficulté, il faut le dire, mais quels ancrages pour ces deux formations? Est-ce qu'il y a toujours le parti des campagnes et des montagnes, celui de M. Barzani, et le parti plus urbain, celui de Feu, M. Talabani?
Oui, il domine toujours la scène politique et c'est pourquoi les autres mouvements démocratiques ou réformateurs qui ont bâti leur campagne électorale sur justement le monopole de ces deux partis politiques ont de la peine à un peu émerger parce que les deux anciens traditionnels ont une certaine légitimité historique certes, mais aussi fort un peu d'une adhésion à la fois urbaine mais aussi des campagnes. Le dernier élément, c'est que ce sont deux partis cadres, c'est-à-dire qui sont constitués autour de personnalités importantes, M. Barzani et Talabani. Aujourd'hui, Talabani n'est plus de ce monde. Barzani, très affaibli après le ratage de ce référendum. Donc, on s'attend plutôt à un émiettement un petit peu de la scène politique et probablement aussi du scrutin et probablement l'émergence de d'autres partis politiques, même si il est très difficile pour ces nouveaux arrivés démocratiquement de se faire une place face à ces deux ténors.
On pense évidemment au parti qui s'appelle Goran, le changement, mais Sinan Bidi, que dire du tableau de bord économique du Kurdistan? C'est peut-être là qu'il faut aller chercher les raisons de cette désaffection dont vous nous parlez.
Oui, la situation économique, il faut rappeler que le Kurdistan a perdu plusieurs avantages économiques. Il était dans une situation presque d'un État quasi indépendant. Aujourd'hui, il se retrouve dans une situation, à la fois il est endetté par rapport au gouvernement central, il n'a plus les moyens de payer ses fonctionnaires. Et on sait que le Kurdistan a quand même plus de 45% de sa population est tributaire de la fonction publique. Bagdad contrôle le champ pétrolier très important des Kirkuk et aussi contrôle certains accès qui étaient très importants pour le Kurdistan. Et je crois que c'est la situation économique et sociale va orienter un peu le choix des électeurs kurdes.
Un dernier mot à Sinan Bidi. Demain, un Kurde devrait être porté à la tête de l'État irakien. C'est une drôle de perspective après tout ce qu'on vient de souligner.
Oui, mais c'est la force de l'Irak et son paradoxe, parce que la Constitution, elle le dit, et tout le monde est obligé de la respecter, la présidence de la République doit revenir à un Kurde. Il faut souligner quand même la présence d'un homme très important à apprécier par tous les Irakiens, c'est Barham Salah.
Donc lui, l'actuel Premier ministre.
Après le Premier ministre, qui est très connu, c'est un homme de dossier, et un autre plutôt nouveau, c'est l'ancien chef du cabinet de M. Barzani. On sait que Bagdad, en tout cas le gouvernement central, le gouvernement fédéral, a une préférence plutôt pour Barham Salah, parce que les relations sont anciennes et ils se connaissent depuis plusieurs années.
Bien, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Sinan Bidi. Je note que vous êtes, et je rappelle par la même aux auditeurs, vous êtes l'auteur de Moyen-Orient, le temps des incertitudes aux éditions Éric Bonnier. Bonne soirée à vous, merci. En Iran, 27 personnes sont mortes et plus de 300 autres intoxiquées après avoir consommé de l'alcool de contrebande. L'alcool de contrebande que l'on trouve un peu partout dans ce pays où sa consommation est pourtant sanctionnée pénalement. 3 enfants tués, un autre blessé à la suite de l'explosion d'une mine à 30 km au nord de Donetsk, bastion séparatiste pro-russe dans l'est de l'Ukraine. Dépouillement en cours en Macédoine où s'est tenu un référendum consultatif sur le nouveau nom de l'ex-république yougoslave censé tourner la page d'un long conflit avec la Grèce et ouvrir la voie à un rapprochement avec l'Union européenne et l'OTAN. Le vote populaire doit valider ou non le passage de l'appellation de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à République de Macédoine du Nord. Le centre-gauche italien essaie lui de se refaire dans la rue. Des dizaines de milliers de partisans du Parti démocrate en pleine déroute depuis sa cuisante défaite aux élections législatives de mars dernier ont défilé aujourd'hui à Rome en fustigeant l'alliance entre les antisystèmes et l'extrême droite. Les 58 réfugiés secourus lundi au large des côtes libyennes par le navire humanitaire l'Aquarius ont mis un pied à terre il y a quelques heures au port de La Valette. Ils auront passé la semaine au large de l'île de Malte. Ils seront pris en charge par plusieurs pays européens. La France accueillera 18 d'entre eux. L'équipage de l'Aquarius, qui s'est vu retirer son pavillon par le Panama, avait choisi de rester dans les eaux internationales pour ne pas prendre le risque de se retrouver dans une situation d'illégalité une fois dans les eaux maltaises avec la possibilité d'être saisi. L'Aquarius devrait faire route vers Marseille, son port d'attache. L'Église française, confrontée à une demande d'enquête parlementaire sur les crimes pédophiles. Bonsoir Laura Dulieu.
Bonsoir.
Laura, une demande formulée par des religieux, des ex-ministres, des avocats et des victimes.
Oui, l'appel sera publié par l'hebdomadaire Témoignages chrétiens. Les signataires veulent faire la lumière enfin sur les agissements pédophiles au sein de l'Église catholique française. Selon le prêtre Daniel Duigou, il en va de la crédibilité même de l'Église.
Je pense que cette enquête est absolument nécessaire. L'Église est au bord du gouffre. Avec cette histoire de pédophilie de prêtres, il faut absolument la transparence. L'Église, comme d'autres institutions, a étouffé les affaires. On a menti, on a couvert, on a été solidaire entre nous parce qu'on avait plus peur du scandale que de la vérité. Et le critère de vérité, c'est la transparence.
Une transparence qui serait rendue possible justement grâce à une commission d'enquête parlementaire, comme l'explique la sénatrice Marie-Pierre de la Gontrie, elle-même membre de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla.
Une commission d'enquête est dotée de pouvoirs qui permettent de ne pas se heurter au refus de tel ou tel ou d'une administration ou de personnes qui ne veulent pas s'exprimer. On ne peut pas prétendre que cela doit se régler en interne. Ce qui est une curieuse façon de voir les choses qui a malheureusement beaucoup trop duré.
Et parmi les outils d'une commission parlementaire, il y a l'obligation de répondre aux convocations, les auditions sous serment ou la possibilité des poursuites pénales. Une telle commission pourrait aussi, par exemple, exiger la communication des archives des diocèses. L'enjeu, c'est que la France puisse rattraper son retard en la matière, car il n'existe pas de chiffres sur l'ampleur de la pédophilie au sein du clergé dans le pays, alors qu'à l'étranger, plusieurs commissions indépendantes ont été mises en place en Australie, en Irlande, aux États-Unis ou encore en Allemagne, où un consortium d'universitaires fait état de plusieurs milliers d'agressions depuis 1946 par plus de 1600 ecclésiastiques. Alors en France, après cette demande, c'est désormais le Parlement qui devra décider de s'emparer ou non de la question.
Merci à vous Laura Dulieu. Années 50, une famille catho dans une Bretagne catho. Un petit gamin vit sa vie truffée d'aventures et de péchés, les deux étant liés, vu que le péché consiste surtout à piquer des pommes chez le voisin. C'est le résumé de Super Catho, l'une des œuvres de René Pétillon, décédé à l'âge de 72 ans. René Pétillon, irrésistible satiriste, Jean-Christophe Augier.
René Pétillon avait le trait rond et le regard acéré. Pendant plus de 40 ans, le dessinateur breton, devenu le plus parisien des chroniqueurs du crayon, a croqué ses contemporains avec une ironie mordante. Par la BD, d'abord, grâce à son personnage fétiche, le détective privé Jack Palmer. Son gros nez, son feutre trop mou, son impert trop grand et sa stupidité désarmante ont permis à Pétillon de se moquer du milieu littéraire de Saint-Germain-des-Prés, les disparus d'apostrophe, de l'inextricable question corse, l'enquête corse est aujourd'hui un must sur l'île de Beauté, et même de faire sourire avec les signes extérieurs religieux dans l'affaire du voile. Pétillon a aussi fait les beaux jours du canard enchaîné, traquant le non-sens dans l'actualité. Pétillon avait reçu le grand prix du salon d'Angoulême en 1989 et devait encore, fin novembre, présider le festival BD Boom à Blois.
Jean-Christophe Augier, le temps de demain dans les grandes lignes. Temps plus frais que celui d'aujourd'hui, des averses et des orages à l'est et du vent au sud-est. Température minimale comprise entre 5 et 10 degrés au nord, 7 à 13 degrés au sud, 13 à 16 près de la Méditerranée. Cette édition a été préparée avec Caroline Benetou.